Poutine refuse de cesser le feu contre l'Ukraine. Trump, au pied du mur? De suite après l'élection du pape le 8 mai, c'est bien la grande parade militaire à Moscou du 9 mai qui devait marquer les esprits. Mais les pays européens ont remarquablement retourné la situation en se réunissant en Ukraine le 10 mai dans un sommet à Kiev qui fait enfin espérer une issue à ce conflit sanglant que la Russie a déclenché en février 2022 pour soumettre son voisin. Grande victoire patriotique contre le nazisme à Moscou, Poutine défie l'histoire et Donald Trump. Le 9 mai, la Russie fêtait en grande pompe les 80e commémorations de la grande victoire patriotique contre le nazisme en 1945. Défiant la réalité historique, Vladimir Poutine essaye d'assimiler la guerre mondiale contre Hitler, oubliant au passage que Staline avait commencé par s'allier avec celui-ci, avec sa propre guerre de soumission de l'Ukraine, qu'il n'arrive d'ailleurs pas à gagner, lui qui croyait avoir la deuxième armée du monde. Le procédé est assez choquant, mais pas étonnant d'un dictateur fascisant comme Poutine. Il se dit féru d'histoire, mais la tord joyeusement pour qu'en aucun cas elle ne puisse le contrarier. Sa grande commémoration du 9 mai devait être célébrée avec une large partie du monde, mais seulement une vingtaine de dirigeants se sont réunis à Moscou, dont la moitié issue de l'ancien empire soviétique. Notons au passage que, dans l'autre dizaine de chefs d'État présents à Moscou, deux Européens affichaient leur obédience à la Russie de Poutine tout en voulant profiter des avantages de l'Union européenne, le président serbe et le premier ministre slovaque. Cependant, le clou de la parade militaire du 9 mai à Moscou n'était pas telle arme ou telle unité militaire, mais bien l'affichage pendant 3 jours de la proximité de Vladimir Poutine avec le président chinois Xi Jinping. Dans un contexte où Donald Trump a fait des propositions inouïes au président russe pour lui permettre de sortir de la guerre contre l'Ukraine, mais aussi de se rapprocher des États-Unis, la volonté de Poutine de mettre en scène au cours de cette parade militaire le soutien qu'il aurait de la Chine sonne comme un air de défi. Ne va surtout pas penser que j'ai vraiment besoin de toi, semble dire le président russe à Trump avec cette démonstration de force et de soutien international. Une attitude de défi de Poutine d'autant plus surprenante que le président américain négocie depuis des mois une proposition largement à l'avantage du maître du Kremlin. Si celui-ci acceptait enfin un véritable cessez-le-feu et une négociation réaliste sur les conditions de sortie de cette guerre qui dure désormais depuis plus de 3 années. Mais en dehors d'une trêve aussi courte qu'opportuniste, manifestement destinée à protéger sa grande parade militaire plutôt qu'à stopper la guerre, Poutine n'a donné aucun signe de bonne volonté face aux demandes pourtant répétées de Donald Trump et de son cercle. Bras d'honneur à Donald Trump ou baroud d'honneur avant de stopper son échec militaire en Ukraine. La grande parade à Moscou du 9 mai 2025 a vu défiler des unités militaires chinoises ainsi que des régiments russes de héros de la guerre contre l'Ukraine. Vladimir Poutine a semblé ainsi faire un bras d'honneur à celui qui cherche désespérément le prix Nobel de la paix et à se montrer comme le président le plus puissant de l'histoire des États-Unis. Signe de défiance et ou message destiné à rassurer ses propres ultras, ceux qui ne comprennent pas pourquoi la Russie ne rase pas l'Ukraine. Cette démonstration de force est probablement à comprendre dans ce contexte où la négociation avec Trump bat son plein et dont l'issue reste incertaine. Donald Trump a manifesté à plusieurs reprises son mécontentement et même son impatience. Le signe le plus visible était bien sûr son tweet Vladimir arrête, qui sonnait comme un avertissement. D'autres signaux, moins publics, ont aussi été lancés par les États-Unis à ce protagoniste récalcitrant pour signifier que le deal n'avait que trop tardé. Pour protéger ces commémorations, Poutine avait en effet réquisitionné de nombreux systèmes de défense antiaérien autour de Moscou. Et les Ukrainiens en ont profité pour bombarder sur le sol même de la Russie des cibles relativement sensibles, des entreprises clés dans l'industrie de l'armement russe. Mais les seuls qui pouvaient cartographier ces faiblesses temporaires dans la défense solaire russe sont les agences de renseignement américaines qui ont fait montre dans ce conflit de leur supériorité en ce domaine. Poutine fête la victoire à Moscou, mais il est en échec face à la résistance ukrainienne. Le soutien américain à ses frappes en profondeur sur le territoire russe est avéré. Il avait pour contrepartie qu'aucune attaque n'aurait lieu le jour du 9 mai, histoire de ne pas compromettre l'avenir de ces difficiles négociations. Et puisque Donald Trump affiche volontiers sa réticence face à la guerre et sa volonté de se concentrer sur le seul domaine qui l'intéresse, le business, Il était déplacé pour le président américain d'évoquer ce bâton militaire face à un président russe qui se veut insensible à la pression. Trump utilise cependant le levier armé sans le dire, et cela n'a pas échappé à son homologue russe. Ainsi, cette grande parade militaire du 9 mai à Moscou devait essentiellement envoyer un message de détermination et de puissance de la part de la Russie, qui se rêve en empire, mais dont l'armée n'a même pas réussi à conquérir un pays 5 fois plus petit que lui. Cette grande démonstration de force était sans compter avec la réaction tardive mais bien organisée de nombreux pays européens et autres alliés de Kiev. Sommet européen de Kiev, coalition des volontaires et rôle clé du lien transatlantique. Sans l'avoir annoncé pour des raisons de sécurité, mais aussi pour créer une forme de surprise, les pays européens, ainsi que d'autres alliés membres de la coalition des volontaires prêts à soutenir militairement l'Ukraine, se sont réunis le 10 mai à Kiev, au cœur de l'Ukraine. Ce sommet a rassemblé notamment le président français Emmanuel Macron, le premier ministre britannique Keir Starmer, le tout nouveau chancelier allemand Friedrich Merz et enfin le premier ministre polonais Donald Tusk, autour du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Plusieurs de ces dirigeants européens sont venus accompagnés de leur chef d'état-major, car leur projet politique comprend une dimension militaire indispensable à la sécurisation de l'Ukraine. Et cette fois, ils ont pris soin de se concerter avec les États-Unis de Donald Trump pour qu'ensemble, Ukraine comprise, ils exigent la même chose de Vladimir Poutine. Quel cheminement incroyable en seulement quelques semaines, depuis l'humiliation publique infligée au président ukrainien par Donald Trump à Washington, jusqu'à cette manifestation d'une coalition unanime autour de la défense de l'Ukraine. Le plan initial de Donald Trump pour stopper ce conflit en Ukraine, dont il avait fait un enjeu personnel de manifestation de son pouvoir, consistait à tout céder à Vladimir Poutine, alors même que ce dernier porte la responsabilité de cette guerre de soumission contre un voisin qu'il n'a jamais menacé. Et le projet porté désormais par les Européens et les Américains consiste à figer la guerre en l'état dans un premier temps par un réel cessez-le-feu, qui signifie littéralement que les armes se taisent, ni tir ni bombardement, afin de discuter d'un accord déterminant la fin du conflit dans des conditions acceptables par les différentes parties, européens compris. Un réel cessez-le-feu pour permettre de discuter des conditions de sortie de la guerre. Globalement, ce projet de la coalition des volontaires ressemble à celui que Trump avait annoncé en décembre 2024 aux membres de l'OTAN interloqués. Mais les Européens ont habilement manœuvré pour ne pas braquer le nouveau président américain qui est prompt à se contrarier et aussi pour trouver un compromis avec une Ukraine épuisée par 3 années de guerre meurtrière mais drapée dans la susceptibilité de celle qui a su résister. Dans ce plan, les concessions territoriales sont importantes. La péninsule de la Crimée est de fait attribuée à la Russie qui l'a annexée illégalement en 2014 et la plupart des territoires conquis par l'armée russe lui sont concédés. Mais avec un mécanisme intelligent de tracer d'une ligne de démarcation qui fasse sens plutôt que de figer pour un temps indéterminé une ligne de front aussi biscornue que tourmentée. Ainsi, la centrale nucléaire de Zaporijjia, conquise à ce stade par la Russie, serait échangée contre des territoires ukrainiens encore libres pour lisser une future frontière qui sera malgré tout une forme de rideau de fer. Entre une Ukraine libre et une fédération de Russie, se comportant plus que jamais en empire menaçant. Ce fut la situation de l'Allemagne de l'Ouest pendant 45 ans, et la frontière de l'Ukraine libre est à dessiner clairement de manière à la stabiliser. Une force de garantie imposée par les Alliés. Bien sûr que la Russie de Poutine avait exigé dans ses discussions avec Donald Trump que la partie de l'Ukraine qu'elle n'aurait pas contrôlée soit dominée de fait grâce à une démilitarisation, donnant la possibilité à la Russie d'en prendre une forme de contrôle indirect. Mais les Alliés ont obtenu, sur le précédent ouest allemand que même Donald Trump connaît, que l'Ukraine libre soit protégée par le déploiement d'une force militaire conséquente qui n'a pas besoin d'être massée sur la ligne de front. Cette force de garantie est le seul moyen de mettre l'armée de Poutine face à un dilemme si ce dernier voulait reprendre son offensive, de s'attaquer non plus à l'Ukraine, mais à toute une coalition. Notons au passage la duplicité de Poutine, assimilant à une menace de guerre la présence sur le territoire ukrainien de militaires d'autres nations, alors que ses troupes sont déployées sur presque 20% de sa surface, avec le renfort affiché de soldats nord-coréens et d'armes iraniennes. La grande contrariété de Poutine sur le sujet est à relier à l'efficacité de cette mesure qui empêcherait toute tentative ultérieure de reprise de sa guerre d'agression, C'est donc un point essentiel de ce projet pour mettre fin à la guerre. En l'absence de réelle alternative dans une situation d'impasse militaire. Il faut se rappeler en effet que la situation de la guerre en Ukraine aujourd'hui est une impasse militaire et qu'il est absolument nécessaire de trouver une issue à ce conflit qui ne pourra pas se résoudre par la guerre. La plus grande crainte, en même temps que l'étonnement du président américain, viennent du refus de Poutine du projet initial de Trump qui concédait au dictateur russe une forme de victoire partielle que sa guerre n'avait pas réussi à lui donner. Mais en impatientant volontairement Donald Trump, peut-être aussi parce qu'il ne s'imaginait pas sortir de la guerre, Vladimir Poutine a renversé un appui largement positif et inespéré des États-Unis au profit d'une coalition large qui lui est clairement opposée. Une coalition qui reconstitue au fond ce qu'était initialement l'Alliance Atlantique, dont l'organisation s'appelle l'OTAN. La balle est alors dans le camp de Vladimir Poutine, une balle que les pays européens ont brillamment négociée sans rompre ce lien transatlantique qui leur avait garanti 80 ans de sécurité. Poutine refuse le cessez-le-feu de la coalition des volontaires et met Donald Trump au pied du mur. À ce stade, le 11 mai, Poutine refuse le cessez-le-feu en proposant des négociations sans conditions préalables pour discuter des causes profondes de cette guerre, les conditions préalables étant justement cette trêve des armes. Poutine utilise cet argument depuis des années pour faire croire qu'il veut la paix tout en continuant la guerre. Il l'a déjà largement utilisé pour prolonger pendant des mois ses discussions avec l'équipe de Donald Trump. Et sur le terrain, plus d'une centaine de drones ont bombardé l'Ukraine ce dimanche matin. Donald Trump est maintenant au pied du mur. Saura-t-il faire pression sur Poutine et le faire cesser le feu pour discuter sérieusement de la fin de cette guerre? Ou l'auteur de The Art of the Deal se laissera-t-il berner par le dictateur russe qui ne comprend qu'un seul langage, celui de la force? Post-scriptum, cette mobilisation des Européens et des États-Unis avec de nombreuses autres nations volontaires pour protéger l'Ukraine et stopper cette guerre de soumission est remarquable. Une telle mobilisation serait essentielle pour stopper aussi la guerre que mène Benjamin Netanyahou avec son gouvernement extrémiste à la tête d'Israël aujourd'hui. Celui-ci met à feu et à sang le Proche-Orient en bombardant sans plus aucune limite et avec des bombes américaines la bande de Gaza pour finir de la dévaster, mais aussi la Cisjordanie pour s'en emparer, le Liban, la Syrie et le Yémen. Ne laissons pas la guerre en Ukraine nous aveugler.